16h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis enchantée de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnée jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors 7h c'est la vôtre, vous n'êtes peut-être pas encore en vacances. Alors pendant une heure, on va peut-être vous donner envie de partir en solo. Vous avez forcément un ou une amie qui voyage régulièrement à l'autre bout du monde avec son sac à dos. Ça vous fait peur ou ça vous fait rêver, en tout cas vous l'admirez. Parce que partir seul, pour certains, ça veut dire solitude, ennui, isolement, mauvaise rencontre aussi. Mais pour d'autres, ce qu'ils font, ils évoquent au contraire de belles rencontres, un sentiment de liberté et des sensations décuplées. Aujourd'hui, le voyage en solo a le vent en poupe. En 2015, un quart des voyageurs partaient en vacances tout seuls. Il n'était que 15% deux ans auparavant, sur les routes de France, comme à l'étranger, mais aussi en club, pour faire de la plongée, de la voile ou du yoga, ou même dans des groupes de célibataires. Qu'est-ce qui vous motive quand vous décidez de laisser amis, conjoints et enfants à la maison et que vous mettez les voiles en solitaire? Partir seul, est-ce la meilleure façon de voyager? C'est notre sujet aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, racontez-nous vos périples, vos coups de cœur, mais aussi vos coups de blues, nous sommes là pour vous écouter.
Et pour joindre Ève Roger, composez le 3921, le standard Europe 1, 50 centimes d'euros la minute, ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Emblématique des années 80, à l'origine destinée à Michel Delpech, vous le saviez?
Pas du tout.
Mais il a refusé, au grand bonheur de Désiré Less, des paroles à double sens qui parlent de voyage géographique, mais aussi de voyage intérieur. Mais nous, on va s'intéresser au voyage géographique, Eve.
Absolument. Bonjour Adeline, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour Eve.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Adeline?
J'ai 46 ans et je suis de Nantes.
Alors Adeline, vous avez commencé à partir seule en vacances il y a 10 ans, donc vous aviez 36 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là?
Alors, j'en avais marre de mon travail. Du coup, j'ai pris une année sabbatique et je suis partie voyager un an autour du monde.
Toute seule. Et qu'est-ce qui vous a poussé à partir seule, justement?
En fait, c'est venu un peu par hasard. J'étais en vacances avec un ami et l'idée de faire un tour du monde est tombée complètement par hasard dans une conversation. Et le lendemain de cette conversation, j'ai croisé deux Espagnols qui venaient de partir partir d'Espagne pour un tour du monde. Et c'était un peu comme un signe pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas seul, quoi. On ne peut pas attendre toujours de trouver quelqu'un, d'attendre des autres pour partir. Pousse-toi et vas-y, lance-toi. Et voilà comment je suis partie 7 mois après.
Et qu'est-ce que vous espériez que vous avez décidé comme ça de partir seul, de rester seul avec vous-même ou au contraire de faire des rencontres?
Oh non, de faire des rencontres. Non, seule avec moi-même, même si j'ai un tempérament assez solitaire, rester un an toute seule comme ça, c'est un peu lourd, quoi. Mais non, faire des rencontres. Mais je savais, j'avais déjà voyagé, en solo, non, mais avec mon sac à dos, 3 semaines avec des amis, voilà. Et je savais que c'était quand même assez facile de faire des rencontres quand on voyage comme ça, donc... C'était ça que j'attendais, mais en même temps, je ne m'étais pas mise la pression, quoi. Je m'étais dit, tu pars seule, et puis si tu vois que ce n'est pas ton truc, tu rentres et ce ne sera pas un échec.
Et justement, comment vous avez préparé votre voyage? C'est minutieusement? Vous saviez exactement où vous alliez jour après jour? Ou au contraire, vous êtes partie le nez au vent?
Ah non, je suis partie... je savais, en fait, j'avais des points que je voulais voir. Par exemple, je rêvais de voir le Taj Mahal encore au Cambodge, et je rêvais d'aller au Machu Picchu. Donc ça, c'était mes 3 incontournables. Et puis après, le reste, je l'ai fait un peu au fil de mes rencontres, de mes envies, de l'adaptation aussi, parce que quand on part tout seul comme ça, on ne sait pas trop comment on va être, dans quel état d'esprit on va être, comment on va gérer les coups de blues ou les coups de très bien. Enfin, c'est vraiment de l'adaptation au jour le jour.
Et justement, ça arrive souvent, les coups de blues, et ça vient à quel moment?
Oh, ça arrive. Moi, j'en ai pas. En un an, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu 2 gros. Un premier en Inde parce que je au début je rencontrais pas grand monde et puis ça devenait un peu lourd pour moi, mais finalement dans ces moments-là c'est toujours les moments où derrière il se passe quelque chose de super. Donc c'est des moments qu'on oublie assez vite.
C'était le mal du pays, c'était quoi? Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi?
Non, c'était pas forcément le mal du pays. J'étais contente de ce que je faisais, d'être partie, etc. Mais c'était vraiment la solitude qui me pesait à ce moment-là. Et puis j'en étais au tout début de mon voyage. Je venais de partir, ça faisait 3 semaines que j'étais partie, je pense. Et du coup, ouais, c'était de me retrouver un peu seule comme ça, c'était compliqué. Mais derrière, j'ai fait une super rencontre de deux Néo-Zélandaises avec un Indien qui faisait du volontariat dans un orphelinat et qui m'ont invité à venir les retrouver dans un village perdu au milieu du Tamil Nadu. Donc voilà, derrière ces coups de blues, il y a toujours des choses positives qui se passent, je trouve. J'en ai eu un autre en arrivant en Amérique du Sud, un continent que je ne connaissais pas et qui, voilà, le début a été assez dur. J'en étais à 8 mois de voyage, j'étais fatiguée. Voilà, mais ça c'est pareil. Ça, c'est
et là vite, c'était pareil, c'était le coup de blues, le sentiment de la solitude?
Alors oui, parce que j'avais retrouvé des filles que j'avais rencontrées en Inde, en Nouvelle-Zélande, chez elles. Et je venais passer 15 jours à Wellington, à retrouver une vie. Parce que quand on voyage comme ça, on est toujours 3 jours à un endroit, 4 jours à un autre, une semaine. Et puis bon, on fait des rencontres au fil de notre voyage. Et là, je revenais de repasser 15 jours avec des filles avec qui j'avais passé 3 semaines en Inde. Et j'avais retrouvé un semblant de vie, de routine, on va dire. Et du coup, de repartir dans le voyage et de me retrouver toute seule.
Il faut du courage. Il faut du courage.
Ouais.
Et moi, je m'interroge toujours, où est-ce qu'on dort dans ces cas-là? Est-ce que vous dormez dans les auberges de jeunesse, à l'hôtel, chez l'habitant? Comment ça se passe?
Oh, un peu tout. Moi, j'ai pas mal dormi dans les auberges de jeunesse, en dortoir, parce que c'est ce qui permet de rencontrer des gens aussi. De dormir dans des petites auberges où il y a des lieux communs où on peut faire la cuisine, s'asseoir à une table et papoter. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile pour faire des rencontres.
Et justement, les rencontres, est-ce que c'est plutôt des gens comme vous qui sont malgré tout des touristes avec des sacs à dos ou c'est vraiment des rencontres des locaux sur place?
Bah, ça dépend. Il y a les deux, je vais dire. On peut rentrer, enfin, dans les auberges, bien sûr, ce sont des touristes comme nous, mais des locaux, on les rencontre dans la rue, dans les restaurants. Enfin, voilà, toute occasion est bonne pour engager la conversation et puis voir où ça nous mène derrière.
Vous avez raconté que vous aviez eu une rencontre, justement, avec des gens en Inde, je crois, qui a été particulièrement importante pour vous.
Forte, ouais. En Inde, j'en ai eu plusieurs, mais cette rencontre dans le Tamil Nadu, c'était dans un restaurant. Je finissais de déjeuner et donc ces deux personnes, deux Néo-Zélandaises et un Indien, sont venues s'asseoir à ma table alors que moi j'allais partir. Et puis je me suis dit, ils ont l'air sympas, je vais rester là et puis je vais engager la conversation. Et on a parlé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Il s'avérait que les deux filles étaient volontaires dans une association, enfin dans un orphelinat qui avait été créé par un Néo-Zélandais. Et elles m'ont invité à venir les rejoindre pour quelques jours. Et ça a été vraiment une expérience dingue parce que c'était un orphelinat avec des petites filles dont on ne connaît pas l'histoire et voilà, mais qui ont des coups de très bien et des coups de blues. J'ai passé vraiment 2 jours fantastiques avec ces petites filles. J'ai aussi fait, il y a une école qui est rattachée à l'orphelinat. On m'a emmené faire le tour en bus de ramassage scolaire. Après, j'ai passé la demi-journée à chanter, à danser avec les enfants dans l'école. Enfin, c'était vraiment...
C'est des beaux souvenirs.
Voilà, au détour d'un... Enfin, voilà, au restaurant, on peut faire des rencontres super qui vont nous mener, mais il faut juste prendre le temps, être à l'écoute, vraiment écouter, enfin... Suivre son instinct, c'est ça qui est dans le voyage en solo, c'est qu'on a un instinct qui est décuplé et on sent ce qui est bien, ce qui va être bien pour nous et moins bien pour nous.
Oui, je comprends. Est-ce que aujourd'hui vous pourriez repartir à plusieurs avec des amis, par exemple?
Alors je le fais parce que c'est quand même plus détendu quand on part à plusieurs. Moi, je continue à voyager seule, mais je pars aussi avec des amis parce que c'est plus détendu. Parce que quand on est seul, on est seul pour décider de tout, quoi. Mmh. Quand on va bouger, où on va dormir, où on va manger, est-ce qu'on a envie de manger tout seul,
enfin, on a besoin de se reposer un peu sur les autres. Alors, merci beaucoup Adeline de nous avoir fait partager votre expérience de voyageuse en solitaire. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Baptiste qui nous racontera aussi un long voyage en Amérique latine qui n'a pas toujours été très serein.
Alors Natacha nous a laissé un message au 3921. Elle nous dit « Je suis célibataire, 42 ans au compteur, et le problème des vacances revient chaque année. Je suis partie plusieurs fois en circuit organisé. On s'occupe de rien, c'est plutôt bien. Le problème, c'est qu'on a peu de temps libre et qu'il faut visiter un maximum de choses en un minimum de temps. J'aimerais partir seule, mais j'ai peur de m'ennuyer. Et puis voir les couples, ça me déprime, ça me ramène à ma solitude. »
Europe 1.
Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1. Pour la joindre et raconter votre histoire, 3921, on vous attend. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur la page Facebook de l'émission.
15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1.
Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage.
Une femme qui part pour une quinzaine de jours et son chéri qui l'accompagne sur le quai de la gare. La version Françoise Hardy, Jacques Dutronc de Puisque vous partez en voyage. Le voyage, il en est question cet après-midi jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger. Partageons nos expériences de vie et cet après-midi, une réflexion autour du voyage, mais en solo. 3921 pour nous joindre.
Nous sommes maintenant en ligne avec Baptiste. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Baptiste ?
Alors, j'ai 25 ans et je vis actuellement à Orléans.
Alors, vous, vous êtes parti 8 mois en Amérique du Sud, il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre les voiles tout seul, comme ça ?
Alors, en fait, c'était à la fin de mon école d'ingé. J'ai fait mon stage de fin d'études.
Ingé, ça veut dire bien. Ingénieur.
Ingénieur, pardon, excusez-moi.
Allez-y.
Et en fait, à la fin de mon stage de fin d'études, un ami m'a proposé de partir avec lui en Amérique du Sud. Et je lui ai d'abord répondu non, étant donné que je pensais continuer pour travailler directement suite à mon stage. Et finalement, avec le temps, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, bah, pourquoi pas partir avec lui. Mm-hmm. Et en fait, quand je l'ai rappelé, il m'a dit, bah, moi, finalement, je me suis habitué à l'idée de partir tout seul. Alors, ce que je te propose, c'est de faire 3 mois tout seul, puis 3 mois ensemble. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je n'étais pas trop partant, étant donné que je n'étais jamais parti tout seul. Mais finalement, de fil en aiguille, en réfléchissant un petit peu, en parlant un petit peu à droite, à gauche, je me suis dit que ça pourrait être une expérience intéressante.
Et vous l'avez faite.
Et on l'a faite.
Et vous êtes parti dans des conditions de confort pas extraordinaires, hein, puisque vous êtes parti avec un sac à dos, une tente et votre pouce pour faire du stop. Hein. C'était pas très...
C'est bien ça.
Pas de gros bagages.
Hein. Ah non, 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 j'avais un sac moins de 15 kilos, un pantalon, 3 t-shirts.
Et vous dites aujourd'hui que vous auriez peut-être préféré finalement être à deux. Alors pourquoi ?
En fait, c'est sur certains moments, le fait d'être tout le temps tout seul, ça me posait des questions plus personnelles et comment voyager. J'avais du mal parfois à toujours me rassurer, plus dans ce sens-là.
Vous étiez inquiet de quoi ?
De savoir si la manière dont je voyageais était la meilleure. Ah. En fait, j'avais du mal à ne pas toujours, à faire toujours mes choix tout seul et jamais pouvoir expliquer mes choix et échanger avec quelqu'un pour dire « Ah, effectivement, là, ça peut être un itinéraire intéressant. »
Donc, vous aviez toujours peur de prendre le mauvais chemin, en fait.
Pas forcément peur, mais parfois des remises en question. Et le fait d'être tout seul, ces remises en question étaient peut-être plus profondes et plus dures à porter.
C'est-à-dire que de choisir l'itinéraire, c'est-à-dire que vous n'aviez pas préparé à l'avance votre voyage, vous êtes trouvé souvent face à des choix. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche ?
C'est un petit peu ça. Oui, et puis même un peu plus loin, quand j'ai fait beaucoup de Patagonie, je marchais beaucoup tout seul dans la montagne. Et un matin, je me souviens de m'être réveillé en me disant oh, « je vais encore voir une lagune bleue, elle va être super belle, mais ce matin, j'aimerais bien me reposer un petit peu ». Et finalement, c'était un petit peu la question de se dire « ah, mais alors est-ce que je suis là pour toujours aller visiter des choses ?» ou finalement aussi parfois de prendre le temps de se reposer un petit peu. Et je me souviens que cette question, le fait de ne pas pouvoir la partager avec quelqu'un, j'étais vraiment un petit peu dans un dilemme cornélien pour moi.
Donc vous n'avez pas quelqu'un à qui appeler pour poser ces types de questions, pour vous rassurer justement ?
Si, c'est ce que je faisais, mais c'est quand même pas pareil parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Moi je me souviens de mes copains qui me disaient « oui mais profite, attends, tu fais 8 mois de voyage en Amérique du Sud, tu ne pourras jamais refaire ça ». Je me disais « oui mais 8 mois c'est long en fait, il y a aussi des fois où j'aimerais bien juste me reposer un petit peu ». Et je pense que le fait d'être tout seul et de ne pas avoir quelqu'un dans le même contexte, c'est un peu plus compliqué pour ça.
Et ça vous est arrivé de vous dire « j'en ai marre, je rentre ».
Non, jamais vraiment.
Ah, parce que vous êtes orgueilleux. Vous vouliez aller jusqu'au bout?
Non, plutôt essayer de se dire, trouver le compromis et vraiment de chercher au fond de soi, de se dire, c'est peut-être le moment, alors si là tu te poses ces questions trop souvent, de faire une pause, d'essayer de trouver un groupe de personnes et de te greffer à ce groupe de personnes pour un petit peu reprendre un peu d'air et essayer de soulager le poids un petit peu de ses choix, entre guillemets.
Mmh. Vous n'avez jamais vraiment eu peur pour votre sécurité, mais vous avez quand même eu peur pour votre santé à un moment, je crois que c'était au Pérou.
Oui, c'est bien ça. En fait, j'ai voulu faire un trek un petit peu hors des sentiers battus dans un petit village, et donc avec un guide local qui parlait plutôt quechua que espagnol, on a fait une ascension d'un mont à 5 ou 6 000 mètres. Et le problème, c'est que je ne m'étais pas du tout acclimaté à l'altitude, donc j'ai pris 4000 mètres d'altitude en dénivelé positif en 48 heures. Mmh. Et on m'avait dit de faire attention parce qu'on risquait, on a des risques de faire un œdème pulmonaire ou cérébral dans ces situations-là. Et comme j'étais tout seul et que j'avais effectivement très très mal à la tête et du mal à respirer, et avec un guide qui forcément ne me comprenait pas forcément,
là, le même langue,
à ce moment-là,
oui.
C'était assez dur. C'était dur de... Quand il me disait, mais non, mais c'est pas très grave, ça va aller, t'inquiète pas. Je me disais, mais non, je vois que tu comprends pas que là, ça va pas.
Et que finalement, et là, ça s'est terminé seul, comment? Je vous parle, donc tout ça s'est bien terminé.
Oui, ça s'est très bien terminé. C'était juste un moment assez difficile pendant 2 jours, le temps de s'acclimater. Et plein de questions où finalement, tout seul, on n'a pas la réponse. Et c'est ça qui met le doute et qui fait peur, je pense.
C'est que vous étiez anxieux finalement, anxieux pour votre santé.
Voilà, et je me suis dit, mince, peut-être que je suis peut-être allé un peu trop fort. Je me suis peut-être mis en danger, peut-être qu'à deux, on aurait réfléchi et on n'aurait peut-être pas fait ça comme ça.
Mmh. Et ça veut dire que si c'était à refaire aujourd'hui, vous ne le referiez pas?
Je le referais, en prenant peut-être un jour de plus, finalement, à ne pas faire la course. J'avais envie de voir beaucoup de choses et de profiter de beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a des moments où, à vouloir trop, on ne profite pas forcément ou on ne fait pas forcément les choses dans le même ordre.
Ça veut dire que je n'ai pas bien compris comment vous le referiez, c'est-à-dire toujours seul, plus longtemps?
Voilà, toujours seul, mais au lieu de faire quelque chose en 2 jours ou faire ses 80 km en 3 jours, prendre peut-être 4 ou 5 jours.
Ah, vous aviez chargé un peu trop la mule, en fait.
C'est bien ça.
C'est ça,
et
vous
là,
avez...
Le fait d'être tout seul, je pense que je ne me suis pas forcément rendu compte que je la chargeais trop.
Merci beaucoup, Baptiste, de nous avoir fait partager votre expérience pas toujours évidente. Nous serons dans quelques instants avec Lucie Hédard, fondatrice et rédactrice en chef de Voyage et Vagabondage, un blog de voyage en solo et au féminin.
Beaucoup de témoignages, Eve, au 3921 et sur les réseaux sociaux, comme Christophe qui nous dit « Enfin les vacances, je viens de prendre un billet d'avion pour faire un break de 10 jours, devinez avec qui je pars ?» Eh bien, personne. J'ai décidé de partir seul en vacances, dépendre des programmes des autres, il y en a assez. Hâte de voir ce que ça va donner.
Europe 1.
N'hésitez pas à nous appeler, vous aussi, au standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes la minute. Et puis il y a les réseaux sociaux, Twitter et la page Facebook de l'émission.
Europe 1, Ève Roger.
Mais il est seul, un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire tout de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer.
Enfant, il faisait des kilomètres en bord de Marne pour pêcher seul, un parcours très précis qu'il connaissait par cœur, comme un rituel, et c'est ce qui a inspiré ses voyages à Gérard Manssé. Il voyage en solitaire, son unique succès populaire, c'était en 1975. Nous sommes toujours avec Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1 pour partager vos expériences de vie. On parle aujourd'hui des voyageurs en solo, ceux qui partent seuls sur les routes, en France comme à l'étranger, des hommes, des femmes. Ils sont célibataires, mariés parfois, en quête de solitude ou au contraire de rencontres. On attend vos appels au 3921.
Je me tourne maintenant vers vous, Lucie Hédard. Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef de Voyage et Vagabondage, un blog de voyage en solo et au féminin. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous vous présentez comme tour du mondiste et voyageuse en solo. Avez-vous le sentiment d'être de plus en plus nombreuse à pratiquer ces vacances en solitaire, Lucie Hédard?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus un effet de mode. Quand je suis partie pour la première fois il y a 12 ans, peut-être que il y avait moins de monde sur les routes. Et puis là, comme il y a beaucoup de voyageurs, il y a aussi de plus en plus de voyageurs en solo.
Vous dites un effet de mode, mais est-ce que ce n'est pas aussi les réseaux sociaux qui ont facilité ce type de voyage?
Bien sûr, Internet, ça facilite l'accès à l'information et on se rend compte que c'est possible. Moi, par exemple, je ne viens pas d'une famille de voyageurs, donc sans Internet, je pense que je n'aurais jamais su que je pouvais faire quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce qui pousse justement les jeunes femmes à partir sur les routes, selon vous?
Une volonté de se découvrir peut-être, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se connaître en dehors de peut-être des carcans de la société, de ce qu'on leur impose, et une grande liberté, une volonté de liberté et d'indépendance, je pense aussi.
Parce que moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'elles n'ont pas peur, ces jeunes filles ?
Il y en a beaucoup qui ont peur, je pense. On a tous des peurs différentes. Moi, j'avais pas forcément peur de partir seule. Après, on a une vision du monde, je pense, qui est un peu biaisée. On voit le monde de manière assez négative et que finalement, on se rend compte que sur la route, il y a pas vraiment tant de problèmes de sécurité que ça. Et justement, les blogs de voyage, les sites internet, les voyageuses qui témoignent sur les forums permettent de montrer que ce n'est pas si dangereux que ça et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Et vous avez un blog pour destiné aux femmes, mais est-ce que les hommes, il y a autant d'hommes sur les routes que des femmes seules ?
Alors, de manière subjective, j'ai l'impression qu'il y a plus de voyageuses femmes en solo, que les voyageurs hommes partent plus en couple ou entre amis. Après, c'est une impression, j'ai pas les statistiques.
Ça veut dire que les femmes sont plus courageuses alors ? Plus curieuses ?
Plus curieuses peut-être.
Mmh. Beaucoup de gens préfèrent ne pas partir seuls en vacances parce qu'ils considèrent que c'est justement le moment où on partage les sensations, on partage les découvertes, que c'est moins fort tout seul. Alors qu'est-ce que vous dites à ça ?
Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on recherche dans ces vacances. Si on cherche un moment de connexion avec son petit ami, son mari ou ses amis, alors évidemment, il faut partir ensemble. Par contre, si on recherche de la connexion au monde, des rencontres locales, une rencontre avec soi-même, je pense que c'est mieux de partir seule.
Et je vous parle là des jeunes filles célibataires qui ont une vingtaine d'années, mais il y a aussi des femmes mariées qui ont des enfants qui laissent tout ça à la maison et qui partent toutes seules. Alors, c'est quoi leur motivation ?
Alors, je ne suis pas mariée, donc je ne peux pas dire, mais j'imagine que c'est un besoin de vraiment apprendre à se connaître en dehors de la famille et d'être une personne à part entière peut-être et d'avoir un peu ces instants à soi pour se retrouver et puis mieux repartir de l'avant au retour des vacances, j'imagine.
Mais ça marche à tous les coups ?
Je pense que ça dépend où on part, si on est vraiment clair sur ce qu'on veut de son voyage avant de partir aussi.
Ah oui, c'est ça. Il faut savoir pourquoi on part.
Oui, je pense, oui.
Et justement, vous donnez des conseils à ces femmes. Est-ce qu'il y a des destinations que vous conseillez et puis d'autres que vous déconseillez ?
Alors moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Et justement, j'aime pas donner une destination conseillée pour des raisons de sécurité, etc. Je préfère dire aux gens et aux femmes de partir là où elles ont envie. Si elles rêvent de partir en Colombie, qu'elles aillent en Colombie. Si elles rêvent de partir en Inde, qu'elles partent en Inde. Parce que si on se dit, je vais tester un week-end en Italie, en solo, voir comment ça se passe, je pense qu'on ne vit pas le voyage aussi intensément parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait. Et peut-être qu'on n'a pas le temps aussi de vraiment appréhender ce voyage en solo.
Mais il y a quand même des destinations qui sont quand même plus dangereuses que d'autres. Vous ne pouvez pas écarter la question comme ça, il faut me répondre.
Non, bien sûr, on est d'accord. Et en fonction de là où on va, il faut préparer son voyage différemment. Il faut se préparer pour la sécurité, mentalement, psychologiquement. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un de partir au Japon ou en Nouvelle-Zélande plutôt qu'en Amérique du Sud pour un premier voyage en solo. Moi, je préfère dire... Allez là où vous avez envie, mais préparez-vous.
Alors justement, comment on prépare un voyage comme celui-ci ? Est-ce qu'il faut le préparer minutieusement ? Est-ce qu'il faut savoir où on va jour après jour ? Ou est-ce qu'il faut... Enfin, qu'est-ce que vous dites, vous ?
Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Moi, je suis partie avec les premiers pays en tête. Une idée de mon itinéraire au début.
Oui.
Des réservations d'hôtels au début, mais je suis partie, pour le tour du monde en tout cas, je suis partie 15 mois, donc non, on ne peut pas organiser un tel voyage minutieusement.
Mais sur un voyage de un mois ou deux ?
Même un mois ou deux, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Je trouve que c'est important d'avoir la première nuit vraiment de réserver, surtout si on arrive le soir pour ne pas se retrouver à Bangkok sans seul logement. Par contre, dans la préparation, ce que je veux dire, c'est rechercher par exemple quel type d'arnaque il peut y avoir, quel type de problème, la santé. Vraiment chercher ces informations-là pour savoir ce qui peut se passer sur place.
Comment éviter les arnaques ? Mm-hmm. Et ça, on trouve ça sur les blogs ?
Sur les forums, sur les blogs, il y a des livres sur le sujet, il y a plein d'informations en ligne à ce sujet.
Alors il y a plein de personnes que ça tente, en particulier mon assistant Benjamin Lévesque, et n'ose pas franchir le pas. Alors, il paraît qu'il y a des exercices pour préparer ce voyage en solo. Qu'est-ce que vous conseillez ?
Alors, ça dépend vraiment de quoi on a peur, parce qu'il y a plusieurs peurs. Il y a la peur de la solitude, il y a la peur de se retrouver seul, de ne pas partager, la peur de l'insécurité. Donc, si on a peur de la sécurité, moi, je conseille vraiment de faire des exercices de self-défense, en fait, de prendre quelques cours. Moi, j'ai fait du karaté et ça donne une grande confiance en soi et ça permet de vraiment sentir mieux sur place. Donc, ça dépend vraiment de
la peur. Et si on a peur de la solitude ?
Si on a peur de la solitude, moi je conseille de tester dans sa vie de tous les jours en fait. Parce que si on s'habitue à faire des choses seules déjà à la maison, ce sera plus simple après. Et puis pourquoi pas aussi tester de parler à des gens dans la rue, parce que c'est ce qu'on fait en voyage en fait. C'est que
s'entraîner à Paris ou en France à parler aux gens dans la rue. Mmh. C'est bien. Ben, restez avec nous, Lucie Hédard. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Voyage et Vagabondage, un blog pour les femmes qui souhaitent partir seules en vacances. Dans quelques instants, nous allons accueillir Nicolas. Il nous racontera ses week-ends en solo à la montagne.
Delphine nous a laissé un message au 3921. Elle nous dit « Je pense de plus en plus à voyager seule car personne n'est jamais disponible pour m'accompagner. Je me pose beaucoup de questions, peur de l'inconnu, peur de l'ennui. Merci pour votre émission. »
Europe 1.
Si vous aussi, comme Delphine, vous souhaitez réagir et partager votre expérience, composez le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, ou Twitter avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission.
16h, Ève Roger sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1. Aujourd'hui, une thématique sur les vacances, parce qu'on ne vit pas un voyage en solitaire de la même manière. On en parle, 3921 pour intervenir.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Nicolas. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Nicolas.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 23 ans. Et moi, j'habite à Chambéry, en plein cœur de Savoie.
Alors vous, Nicolas, vous n'allez pas très loin de chez vous, puisque c'est dans les Alpes que vous partez deux fois par mois, seul, pour un week-end de randonnée. Qu'est-ce qui vous pousse à partir comme ça régulièrement ?
Bah, moi, j'aime bien me qualifier d'aventurier en herbe. Donc c'est vrai que je pratique assez régulièrement la randonnée. Et par ailleurs, je me connais beaucoup comme grand introverti. Donc je me ressource essentiellement dans le calme et la solitude. Et c'est vrai que ces voyages en solitaire m'offrent une quiétude et une solitude qui me ressourcent énormément.
Donc, ah ça, oui, c'est l'inverse, c'est la solitude qui vous ressource, qui vous apporte quelque chose. Vous n'en avez pas peur.
Ça. Je pense que ça dépend beaucoup des personnalités, mais je pense que pour les plus introvertis d'entre nous, on va se ressourcer essentiellement dans la solitude. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu plus ma bouteille d'oxygène qu'une peur, en fait.
Et ça n'a pas été évident quand même au début d'être tout seul.
Bah, on a peut-être un peu des peurs, des a priori. Après, je pense que ça se fait progressivement. Puis moi, après, en soi, j'ai l'habitude de beaucoup me consacrer à la solitude, à des activités en solitaire chez moi.
Et qu'est-ce que vous aimez dans la solitude, Nicolas ?
Je pense que en montagne, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve... y a un environnement qui est propice à l'introspection, je dirais. Donc moi, c'est ça que je recherche beaucoup au quotidien. On se donne rarement ce temps de se poser sur soi, de se recentrer sur soi. Et je pense que c'est l'une des choses qui est fondamentale et qu'on trouve dans la solitude.
Parce que dans la vie quotidienne, vous êtes très, très sollicité, vous voyez beaucoup de monde, vous parlez beaucoup, c'est ça ? Et c'est une façon pour vous de changer de rythme ?
C'est vrai qu'il y a un rythme qui est assez effréné. Bon, moi déjà je suis en apprentissage, donc je bouge beaucoup, je fais pas mal de transports en commun, je passe des journées où effectivement je suis beaucoup dans le contact, et le soir j'ai tout juste le temps de me poser. Donc c'est vrai que des randonnées en solo le week-end, ça me permet de trouver ce temps-là. Ouais.
Et le fait de marcher, qu'est-ce que ça vous apporte en plus du fait d'être seul ?
Moi je m'intéresse beaucoup à... Depuis quelques années, je pratique la méditation de la pleine conscience. Et c'est vrai que marcher, ça nous aide, je trouve, à être pleinement présent en dehors de la solitude, à être pleinement présent à tout ce qui nous entoure, à éprouver tout ce qui nous traverse par nos sens.
Les odeurs, vous voulez dire, le paysage ?
Ouais, c'est ça, ça va être des odeurs, des émotions aussi, parce que là aussi... Au quotidien, on ne se donne pas toujours le temps de traiter ses émotions, ou alors on a beaucoup d'échappatoires, comme les portables, beaucoup de sources de distraction.
Et justement, quand vous marchez, je me demandais, est-ce que parfois vous accompagnez de musique ou de la radio, peut-être ?
Non, pas du tout. Moi, je préfère... j'ai vraiment besoin d'apprécier l'environnement en montagne qui est déjà assez riche, parce que il y a les oiseaux, il y a des rivières. Je préfère être présent à tout ça et ressentir, par exemple, on disait les odeurs. Moi, dans les Belles-Dômes, j'aime énormément les forêts de sapin qui ont une odeur vraiment spécifique.
Et si un jour vous êtes en couple, parce que je crois que vous êtes aujourd'hui célibataire, est-ce que vous souhaiteriez continuer ces excursions en solitaire ou vous aimeriez le faire à deux ?
Je pense que j'en ai fondamentalement besoin. Donc si je devais me retrouver en couple, je pense que rapidement il faudrait que ce soit cadré pour que j'aie toujours ces temps-là. Après, pourquoi pas les vivre à deux, parce que c'est des choses aussi que je fais entre amis ou avec des proches, mais c'est quand on est à deux ou dans un groupe, on n'est pas attentif à son environnement, on est connecté à l'autre, on est dans l'interaction, et donc l'avantage d'être seul, c'est de pouvoir être présent à tout ça.
Être présent à la nature, aux arbres. Merci beaucoup Nicolas pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Aurélie. Elle part régulièrement seule en vacances dans un club où on fait du sport. Son objectif, vaincre sa timidité.
Camille a souhaité aussi nous laisser un petit message. Il nous dit « Je suis partie avec mon sac en Inde, au Népal, en Thaïlande, en Indonésie. Faire ce qu'on veut, quand on veut. J'ai franchi le pas il y a quelques années. Je suis devenue totalement addict du voyage en solo. Avec le temps, je suis devenue moins timide, plus ouvert. » Alors c'est vrai, les imprévus, les galères, ça existe. Mais c'est aussi ça, voyager.
Europe 1.
Si comme Camille, vous souhaitez nous laisser un message, c'est facile. 3921, Twitter avec le hashtag Europe 1. Rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Nous irons à Toronto en auto. Nous irons à Montréal à cheval. Nous traverserons Québec à pied sec. Nous irons à Ottawa en wawa.
Charles Trenet parle de son voyage au Canada au début des années 50 et vous aussi continuez à nous parler de vos voyages. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec Ève Roger, plein feu sur les célivacances. Partir seul en vacances, est-ce la meilleure façon de voyager ? On vous pose la question, 3921 pour nous joindre.
Et nous accueillons maintenant Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Et quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Aurélie ?
34 ans et de Paris.
Alors, ça fait 6 ans que vous allez deux fois par an dans le célèbre club où on fait du sport. Comment c'est arrivé la première fois, Aurélie ?
Exactement. Ça fait donc 6 ans que je pars avec l'UCPA. La première fois, c'est arrivé, du coup, je suis partie à la montagne, puisque je voulais absolument partir à la montagne et mes amis n'étaient pas intéressés par la montagne. Et donc, j'ai décidé de partir avec l'UCPA et en même temps aussi de vaincre un petit peu ma timidité pour pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes en partant seule.
Est-ce que vous appréhendiez justement le fait de vous retrouver seule au milieu d'inconnus ?
Oui, j'appréhendais un petit peu parce qu'évidemment je ne connaissais pas forcément le concept parce que je ne connaissais personne qui était parti par l'UCPA. Et puis j'appréhendais un petit peu à me dire est-ce que je vais passer du coup ma semaine de vacances seule ou est-ce que je vais réussir à rencontrer du monde ?
Alors ?
Donc un petit peu d'appréhension.
Comment ça s'est passé ?
Très très bien, le résultat très positif puisque évidemment l'UCPA c'est aussi un petit peu le concept de pouvoir partir seul et tout le monde est du coup un peu dans la même optique et tout est fait justement aussi pour qu'on rencontre du monde et qu'on se connaisse rapidement et facilement puisque du coup on est sur des chambres collectives en général de 4 personnes regroupées un petit peu par âge et par activité en fonction de l'activité sportive qu'on a choisie.
Et donc vous avez tout de suite des centres d'intérêt communs, tout de suite vous arrivez à lier une relation ?
Oui, assez facilement parce que c'est vrai que déjà le premier point c'est l'activité pour laquelle on vient, que ce soit par exemple pour l'hiver le ski, le snow ou après l'été sur d'autres activités. Donc c'est souvent les premiers échanges qu'on a. Et puis après, à force de rencontrer du monde dans le centre, puisque tout le monde est assez ouvert, en tout cas à discuter, puisque beaucoup de personnes viennent seules dans les centres UCPA. Donc après, on parle de notre quotidien et certaines appétences se font en fonction des centres d'intérêt de chacun.
Est-ce que vous avez le sentiment de faire des efforts pour aller vers les autres ou finalement ça s'est fait tout à fait naturellement ?
Ça s'est fait naturellement par la suite, en fait. J'ai fait un effort vraiment pour partir et être sur place en me disant, exactement, plus dans la préparation. Après, arriver une fois sur place, bon, c'est vrai qu'on se retrouve avec nos colocs ou avec les gens de notre groupe, donc on se force aussi à parler, à dire bonjour, à essayer de rentrer en communication et après, ça se fait tout seul, en fait.
Mais est-ce qu'il y a des fois où ça n'a pas été aussi bien que d'autres fois ? J'imagine qu'à chaque séjour ne se ressemble pas ? Est-ce qu'il y a eu des fois où c'était moins sympathique que d'autres ?
Chaque séjour ne se ressemble pas, c'est vrai. Des séjours moins sympathiques, non, pas forcément, parce que pour toutes les fois où je suis partie, On est quand même sur des grands centres en général de 200 à 300 personnes, donc il y a toujours deux, trois personnes avec qui on va s'entendre vraiment très très bien, et du coup on fait des petits groupes. Moi je sais que j'ai gardé beaucoup d'amis du coup par ce biais-là, et des amis avec qui je pars en vacances aujourd'hui et avec qui je sors au quotidien.
Alors vous souhaitiez vaincre votre timidité, est-ce que ça a marché? Ça veut dire, est-ce que dans votre vraie vie, celle qui n'est pas en vacances, vous êtes devenue moins timide?
Oui, ça a fonctionné parce que c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi en fait par rapport au rapport que je pouvais avoir avec les autres.
Ça veut dire que vous êtes un peu entraînée à parler aux gens, un peu comme on disait tout à l'heure, sauf que celle-là c'était dans un club de sport. Vous êtes entraînée et ça vous avez pu le mettre en pratique dans votre vraie vie.
Oui, ben en fait ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais discuter avec des gens, que je pouvais intéresser aussi d'autres personnes. Et donc, ça m'a donné confiance sur le fait d'aller moi directement parler à d'autres personnes, à m'ouvrir et à pouvoir avoir des relations, j'ai envie de dire, avec des personnes que je connais pas forcément.
Enfin, moi, je vous trouve pas du tout timide. Mais est-ce que vous dites que vous êtes tombée amoureuse du concept? Est-ce que vous êtes tombée amoureuse tout court là-bas à l'UCPA?
Non, malheureusement, non. Du concept, oui, oui. Mais pas amoureuse.
En tout cas, vous avez trouvé des amis que vous continuez à voir.
Oui, exactement.
Et vous allez continuer à partir comme ça. En tout cas, merci Aurélie pour votre témoignage. Dans quelques instants, pour conclure cette émission, nous allons retrouver Patricia. Depuis 2 ans, elle part en vacances seule, mais qu'avec des groupes de célibataires.
Élodie, qui nous écoute, nous a laissé un message, Eve. Alors, elle nous dit « Mon frère sait que je n'aime pas partir seule en vacances et donc cette année, il a décidé de réserver un hôtel dans le sud pour lui et moi plutôt que de réserver ses congés pour bouger avec ses potes. Dans une vie parallèle, je l'aurais épousé. »
Europe 1.
N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages pour joindre Eve Roger et raconter votre histoire. 39-21, 50 centimes la minute ou rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, sans oublier Twitter avec le hashtag Europe 1.
16h, Eve Roger sur Europe 1.
Partageons nos expériences de vie pour quelques minutes encore sur Europe 1 avec vous, Eve Roger. On s'intéresse au voyage, mais en solo.
Oui, pour conclure cette émission, nous sommes avec Patricia. Bonjour Patricia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Patricia?
53 ans et j'appelle de Lyon.
Donc vous, c'est un peu plus de 50 ans que vous avez sauté le pas et choisi de partir avec une agence spécialisée dans les vacances pour célibataires. Racontez-nous comment c'est arrivé.
En 2017, j'étais seule, j'avais envie de partir en vacances. Pas mal d'amis en couple autour de moi, donc pas possible de m'intégrer au groupe. Enfin, pas envie surtout.
Oui.
Après, des amis célibataires, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes envies que moi, les mêmes vacances que moi, les mêmes dates de congé, le même budget, etc. Donc, en pianotant sur Internet, j'ai trouvé une agence qui s'appelle SoloWays et en fait qui organise des voyages entre célibataires.
Donc, vous cherchiez l'amour?
Non. Non. Je cherchais à partir avec un groupe, comme j'aurais pu partir avec un groupe de potes, Puis ne pas se retrouver seule au repas, à midi, le soir, avoir des activités en commun, quoi.
Et pas qu'avec des couples, parce que c'est vrai que c'est assez déprimant.
Et pas qu'avec des couples, parce que c'est pas très drôle.
Vos amies, elles vous regardaient de travers? Un peu quand vous avez dit que vous partiez avec ces groupes de célibataires.
Oui, parce que ça surprend un petit peu. L'inconnu fait toujours peur en me disant qu'est-ce que tu vas trouver? T'as pas peur de t'ennuyer? T'as pas peur de tomber sur un groupe qui te convienne pas? Et en fait, je me suis dit au pire, de toute façon, je suis au soleil. Si personne ne me convient, c'est pas très grave. Je passerai une semaine au soleil sur un transat et ce serait bien aussi.
Et où est-ce que vous êtes allé comme ça dans plusieurs pays, non?
À Rhodes, et j'ai fait la Sardaigne, j'ai fait la Sicile, j'ai fait Cuba, j'ai fait le Cap-Vert.
Ah oui, de belles destinations. Oui.
Je pars aux Canaries avec 4 personnes que j'ai rencontrées pendant ces vacances-là, et avec qui je suis restée en contact.
D'accord. Est-ce que ce n'est pas un peu gênant, ces groupes de célibataires? C'est un peu triste même, parce que chacun affiche une forme de solitude.
Pas du tout, c'est une semaine de rigolade. Alors, il y a quelquefois des gros groupes et quelquefois des plus petits groupes. Donc forcément, quand il y a des gros groupes, ça crée un petit peu des clans. Forcément, mais on arrive toujours à trouver quelques personnes qui ont les mêmes affinités que nous et les mêmes attentes. Et pour moi, c'est génial.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce type de séjour, alors finalement?
C'est de partager, parce que partir tout seul et de rien partager, c'est pas drôle.
Et vous partagez donc, c'est comme si vous partiez avec une bande de copains en vrai?
Voilà, c'est ça.
Mais parfois, les couples se forment, j'imagine.
Alors, en 6 voyages, on a vu un couple se former.
C'est pas beaucoup.
6 voyages. Non, c'est pas beaucoup. Alors, il faut dire que la proportion, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes hein, dans ces groupes-là. Il y a, je dirais, à chaque fois, 2-3 hommes pour 10 femmes. Quoi.
Et comment ça se passe?
Ben, ça se passe bien.
Enfin, je veux dire, ça y a toutes les bien. Femmes, elles essaient de séduire le seul homme qui
non.
est là?
Non, pas du tout. Non. Il n'y a jamais eu de comportement.
Oui, de rivalité, de jalousie.
Lourd,
oui, ouais, voilà,
non,
c'est ça.
Pas du tout. Pas du tout.
Et vous racontez que dans.
Ça arrivera peut-être. Hein, ça
dans,
arrivera peut-être. Mais
dans ce type de voyage, vous êtes jamais. Il y a, parfois, c'est des groupes de 6, parfois des groupes de 20. Comment ça se
dépend.
Fait Comment ça se fait?
Ah, bah parce qu'il y a certainement des destinations qui intéressent plus que d'autres, ou les périodes aussi. L'été, on est toujours plus nombreux. Que hors période, quoi, que quand on part au mois de mai ou au mois de décembre. L'été, c'est toujours des plus gros groupes, mais tout au long de l'année, oui, ce sont des plus petits groupes.
Et vous, Patricia, vous n'avez jamais été tentée par le voyage vraiment complètement seule, c'est-à-dire en dehors d'un
non.
groupe ou en dehors d'une agence
non.
de voyage? Et
non.
pourquoi?
Non. Bah, parce que je vis déjà toute seule, donc déjà toute l'année je suis toute seule, parce que je suis commerciale, donc je mange toute seule tous les jours à midi. Donc non, me retrouver toute seule pendant les vacances, non. Non, c'est enfin non, j'envisage pas du tout ça.
D'accord, je vais poser la question à Lucie Hédard qui est avec moi ici. Vous êtes fondatrice du blog Voyage et Vagabondage. Oui. Et vous organisez des stages pour aider les femmes à franchir le pas.
C'est ça, j'organise un stage avec une autre blogueuse de voyage, Anastasia, pour partir en Écosse, pour apprendre à voyager en solo. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'aider à dépasser les peurs, les différents blocages qu'il peut y avoir, que ce soit l'ennui, la solitude, l'insécurité. Donc, on va traiter plein de choses.
Et l'ennui, alors, comment on lutte contre l'ennui?
Comment on lutte contre l'ennui? En voyage, c'est très compliqué de s'ennuyer, moi, je trouve. On n'a vraiment pas le temps parce qu'il faut planifier le voyage. On peut lire des livres, rencontrer des gens. Moi, je
ça
trouve
pèse
ça...
lourd, des livres, quand on est en voyage.
Il y a des Kindle. Donc, l'ennui, je trouve que ça n'arrive jamais en voyage, personnellement. Je m'ennuie plus dans ma vie quotidienne.
Et est-ce qu'il faut avoir un caractère particulier pour aimer ce type de voyage?
Non, je...
Quelle qualité il faut avoir?
Non, je ne pense pas. Je pense que le plus important, en fait, c'est de savoir s'écouter. De savoir s'écouter, de suivre son instinct. Donc, si à un moment, ça ne va pas, bah, on prend du temps un peu pour soi. Si on a envie d'aller vers les autres, on va vers les autres. Donc, vraiment, il y a des phases du voyage différentes. Et je ne pense pas qu'il faille être solitaire ou introverti, extraverti pour partir en voyage en solo. Chacun y trouve son compte, à mon avis. Et je pense d'ailleurs qu'on devrait tous partir en voyage en solo un petit peu.
Pourquoi ?
Pour apprendre à mieux se connaître, vraiment.
Et est-ce que des fois, il y a des gens qui se bloquent et qui rentrent parce que ce n'était pas fait pour eux?
Je pense qu'il y en a qui rentrent, mais je trouve ça dommage, en fait, de rentrer si on n'a pas réussi à trouver ce qu'on cherchait. Après, évidemment, si ça ne nous plaît pas du tout, si on n'arrive pas à rencontrer des gens, bah, pourquoi se forcer à rester aussi? Évidemment, autant rentrer.
Merci beaucoup, Lucie Hédard, pour votre éclairage.
Merci
infiniment à Patricia de nous avoir fait partager son expérience. Adeline, Baptiste, Nicolas et Aurélie, on l'aura compris, partir seul sur les routes, c'est une formidable façon de voyager. On décuple les sensations et les rencontres, et quand on revient, on se sent plus fort que tout parce qu'on a traversé cette épreuve qui permet à la fois d'éprouver mais aussi d'apprivoiser la solitude, mais aussi sa capacité à aller vers l'autre et à accepter qu'on vous ouvre les bras. Mais pour que tout se passe bien, il ne faut pas partir le nez au vent, il faut préparer son voyage, se servir de l'expérience des autres, surfer sur les blogs, s'en inspirer, puis s'en écarter pour tracer son propre chemin. Et pour tous ceux qui s'élancent seuls au milieu d'un groupe d'inconnus, dans un club ou alors d'un voyage organisé, il faut partir sans préjugés ni a priori, oublier sa timidité, ses appréhensions et laisser le hasard faire bien les choses, on l'espère.
Mais oui, vous pouvez continuer à en discuter, tiens, sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons de la garde alternée pour les enfants de parents divorcés, une semaine chez papa, une semaine chez maman, un mode de vie qui ne cesse d'augmenter. Alors, si vous avez été élevé à moitié chez l'un, à moitié chez l'autre, si vous en gardez un bon ou un mauvais souvenir, si vous le vivez aujourd'hui comme enfant ou comme parent, ou si vous hésitez encore à choisir ce mode de garde pour vos enfants, que vous soyez père ou mère, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Merci à Benjamin Lévesque, le voyageur, pour la préparation de cette émission. Un grand merci aussi à Boris Paczynski pour la réalisation. Et merci à vous, Marlène.
Merci, Eve, de m'avoir donné envie de préparer mon prochain voyage.
Je vous laisse maintenant avec Karima Charny pour 2 heures de musique. Laissez-vous porter, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.